Nous voulons que par son esprit, il puisse rendre notre intelligence capable de saisir sa pensée. Nous voulons que par son esprit, il puisse nous préparer à recevoir sa parole. Nous voici, Seigneur, une fois de plus devant toi. Cette fois-ci pour te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Ces moments merveilleux nous ont permis, ô Dieu, de t'exprimer nos sentiments par des chants, par des cantiques, de faire monter vers toi, Seigneur, nos prières en esprit et par l'esprit. Merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, à toute cette louange, au Dieu, à toute cette atmosphère, Seigneur, de louange et d'adoration. Tu as agréé ces moments parce que tu nous aimes. Tu as reçu favorablement les paroles de nos bouches, Seigneur, les sentiments de nos cœurs, parce que tu es notre Père en Jésus-Christ. Et tu es à chaque fois dans la joie, Seigneur, quand tu nous vois rassemblés autour de toi. Quand tu nous vois chanter à l'unisson, faire monter vers toi, Seigneur, nos cantiques et nos chants. Ô Père, merci. Merci pour cet amour que tu as pour nous. Et ce matin, Seigneur, dans ton amour, nous te demandons de nous parler. Nous te supplions, Seigneur, prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Que cette parole puisse trouver des cœurs préparés, des cœurs bien disposés, Seigneur, à l'accueillir. Oui, ta parole est une semence vivante. Oui, ta parole est efficace. Elle est puissante devant toi. Et nous voulons qu'elle puisse nourrir nos cœurs. Qu'elle puisse nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi. Qu'elle puisse nous affranchir de tout esclavage. Que par ta parole, Seigneur, tu puisses renouveler notre intelligence et nous transformer, ô Dieu, en des créatures sensibles à toi, capables de discerner ta volonté, à savoir ce qui est bon à tes yeux, ce qui est agréable à toi, ce qui est parfait devant toi. Parle-nous, fais-nous du bien. Pose ta main sur ton serviteur, Seigneur. Et donne-lui, Seigneur, toute l'autorité dont il a besoin, toute la force dont il a besoin pour proclamer ta parole avec conviction, Seigneur, avec persuasion, que cette parole puisse être accueillie comme étant la parole du Dieu vivant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, nous allons donc continuer, c'est le quatrième dimanche, que nous parlons du combat spirituel. Je voudrais, une fois de plus, revenir sur ce thème ô combien important, savoir combattre le bon combat, le combat de la foi, mais aussi le combat pour la foi. Ce qui est formidable en ce qui concerne ce combat dans lequel nous sommes engagés, dont l'enjeu principal, l'enjeu majeur, est le salut de nos âmes, ce qui est formidable, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un combat qui a déjà été vaincu. C'est un combat que le Seigneur a remporté il y a 2000 ans. Alléluia. Il nous appelle alors que nous faisons partie de son armée. Il nous appelle alors qu'il nous a enrôlés comme des soldats dans son armée. Il nous appelle à demeurer fermes, à demeurer debout dans cette victoire, mes amis, et avancer en faisant reculer les ténèbres. Ces ténèbres spirituelles qui s'accumulent malheureusement de plus en plus sur nos nations, sur nos pays, alors que nous vivons des temps particuliers, ces temps que la parole de Dieu qualifie comme étant des temps derniers, eh bien nous assistons à une activité démoniaque de plus en plus intense, nous assistons à un esprit de séduction sans précédent, beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées sont secouées, mes amis, par toutes sortes d'enseignements hérétiques, par toutes sortes de doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. et qui, hélas, contribue à rendre l'Église impotente, contribue à éteindre le feu de l'Esprit au sein de l'Église, à éteindre la lumière. Et du coup, l'Église se retrouve comme étant une sorte de lampe tempête qui ne brûle plus, qui n'éclaire plus. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'avec lui, il n'est jamais trop tard. Nous pouvons toujours revenir à lui, nous pouvons toujours repartir de nouveau, car il est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Il n'est pas celui qui brise le roseau inutilement, mais pas du tout. Il est le restaurateur des brèches. Il est le réparateur des vies brisées et des vies avilies, asservies. Gloire au Seigneur. Combattre le bon combat. Nous allons lire et relire une fois de plus. Ma prière est que ces passages qui nous accompagnent depuis le début de ce mois de mars, car vous êtes sans ignorer que le dimanche d'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ce mois de mars, et pendant tout ce mois, nous avons parlé du combat spirituel. Pendant tout ce mois, il y a des passages qui ont fait l'objet de notre méditation. Et ma prière, le vœu de mon cœur, est que ces passages arrivent à s'imprimer dans notre esprit, dans notre mental, dans notre intelligence, dans notre cœur. Éphésiens, nous commençons notre lecture. Attendez. Ah voilà. Dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, et puis ensuite nous poursuivrons notre lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 10, nous lisons, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes devant Dieu, pour renverser des forteresses. » Et enfin, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, nous lisons, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme, ou littéralement, afin de pouvoir rester debout contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme, rester debout, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, restez donc debout, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés, tous les projectiles enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints, gloire à Dieu. Amen. Nous venons de le chanter, notre Dieu est puissant. Et tout ce qui vient de lui reflète sa puissance. Ce Dieu puissant a mis à notre disposition des armes puissantes. Des armes, mes amis, qui sont là pour nous assurer la victoire. Quel que soit le type d'adversaire qui se tienne devant nous. Quelle que soit la taille de la montagne qui est là devant nous. Quelle que soit, mes amis, l'obscurité des ténèbres qui bouche notre horizon. Quels que soient les cyclones, les tornades qui nous menacent, les armes que le Seigneur met à notre disposition, cette panoplie, cet arsenal Mes amis, divin est un arsenal puissant. Si aujourd'hui l'Église est confrontée à toutes sortes de problèmes, si aujourd'hui l'Église manque de puissance, c'est tout simplement parce que l'Église, mes amis, n'est plus attachée à la parole. L'Église se contente de toutes sortes d'enseignements pernicieux, de toutes sortes de doctrines qui n'ont aucune base scripturaire, aucune base biblique. Et une des conséquences terribles, un des colorères tristes, mes amis, du détachement de l'Église de la parole de Dieu, c'est que l'Église aujourd'hui est une Église impotente, sans puissance, une Église avachie, une Église qui ressemble à une feuille morte. Voyez, vous connaissez tous le sort d'une feuille morte lorsque souffle la tempête. Une Église qui ressemble à un roseau ballotté par toutes sortes de vents. Or, ce que le Seigneur attend de son Église, c'est qu'elle soit une Église puissante, une Église conquérante, une Église non seulement qui résiste, mes amis, à la pression du monde, qui résiste à toutes sortes d'attaques de la part de dominateurs des ténèbres, mais aussi une Église qui fait reculer les ténèbres, qui fait reculer, mes amis, le diable, et qui conquit et reconquit les territoires occupés par l'adversaire. Nous appartenons au royaume le plus puissant qui soit. Le Seigneur nous a enrôlés dans son armée. Est-ce qu'il attend de nous ce que nous puissions être de bons soldats du Christ? De soldats, mes amis, qui sont en campagne sur un champ de bataille, comme nous l'avons vu, qui ne s'embarrassent pas de toutes sortes de choses de ce monde, qui ne se laissent pas distraire par les choses visibles, car la parole de Dieu déclare que les choses visibles, mes amis, sont éphémères, sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Puisque les choses invisibles sont éternelles, alors faisons tout, mes amis, pour placer nos affections sur les choses d'en haut. Car l'énergie dans ce combat, l'énergie dont nous avons besoin, la puissance dont nous avons besoin, eh bien, ne peut nous venir que d'en haut. Si nous voulons demeurer dans la victoire, eh bien, nous n'avons pas d'autre intérêt que de nous approprier des armes que le Seigneur met à notre disposition. Nous n'avons pas d'autre choix, mes amis, que d'agir et de réagir par le Saint-Esprit. Soldats du Christ, non pas casernés quelque part, soldats du Christ, non pas en bivouac quelque part, dans un camp quelque part, soldats du Christ, non pas dans une parade, voyez-vous, pas du tout, mais soldats du Christ sur le champ de bataille. Le combat fait rage. Regardez autour de vous, regardons autour de nous, combien d'hommes et de femmes qui étaient avec nous, qui avaient très bien commencé, mais qui aujourd'hui ne sont nulle part. Certes, ils ont toujours le nom du Seigneur dans la bouche. Certes, ils continuent encore à fréquenter de temps à autre, lorsque le temps leur permet, telle ou telle autre assemblée. Mais en réalité, leur cœur est gangréné par la cupidité, par la convoitise, par l'orgueil, la grandiloquence, la fanfaronnade. Une fois que les choses de ce monde, ils ont oublié leur premier amour. Nous ne sommes pas dans une parade militaire. Nous avons déjà eu à assister d'une manière ou d'une autre à une parade. Il y a quelques années d'ici, l'ancien numéro 1 de la police provinciale m'avait invité à prendre part à une parade de la police nationale à Kinshasa. Et j'avais répondu, et je me souviens encore, ce jour-là, ils étaient tous bien habillés. Ils avaient des uniformes formidables. Et voyez, et plusieurs unités ont défilé devant nous. Il y avait plusieurs autorités. Voyez, à la tête de chaque unité, il y avait un commandant. Et les gens applaudissaient. Voyez-vous, ils marchaient à la même cadence. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Les gens les acclamaient. Les gens les applaudissaient. J'étais là et je me suis dit, mais formidable, ces hommes en uniforme. Mais beaucoup d'entre nous pensent que nous sommes dans une parade. Non! Nous sommes sur un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, il n'y a personne pour t'acclamer. Au contraire, il n'y a que d'ennemis. Au contraire, il n'y a que de gens qui sont là, même de gens de ta propre famille, pour te décourager, pour mettre les bâtons dans les roues, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Mes amis, réveillons-nous, car les armes que le Seigneur met à notre disposition sont puissantes devant lui. Voilà le secret. Devant lui. Tout repose sur cette expression. Devant lui. Et pendant quelques dimanches, j'ai attiré votre attention là-dessus. Et les armes, les principales armes qui sont là devant nous, nous l'avons vu et je me permets de vous le rappeler. Je vous le rappellerai toujours. Voyez-vous, sont l'épée de l'esprit, qui est donc la parole de Dieu. Ensuite, la prière par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Et tout cela avec persévérance, avec détermination, avec endurance. La prière par l'esprit, l'épée par l'esprit, voyez-vous. C'est pourquoi, mes amis, nous devons tout faire pour nous exposer à la parole de Dieu, à la vraie parole de Dieu, celle qui repose sur la Bible, sur l'enseignement incomparable des apôtres du Christ. C'est cette parole qui suscite la foi en nous. C'est cette parole qui nourrit notre foi. C'est cette parole qui nous transforme à l'image du Maître. Oui, pendant plusieurs dimanches, nous avons vu combien nous avions tout intérêt, mes amis, à rechercher cette intimité avec le Saint-Esprit, à rechercher cette grande proximité avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions nous tenir devant Dieu et faire toutes choses à partir de sa présence. Se tenir devant Dieu implique que nous ayons une certaine intimité avec lui. Se tenir devant Dieu, être devant sa face, être dans sa présence, mes amis, demande à ce que nous puissions remplir des conditions en amont, afin qu'en aval, nous puissions bénéficier de sa gloire, de sa puissance. Voyez, nous tenir devant sa face implique donc que nous menions une vie de sanctification. Cherchez la sanctification, nous dit la parole, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Non seulement le voir quand il reviendra en ce jour-là, au milieu des anges de sa gloire, mais le voir déjà maintenant. Car notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui a la totalité et du temps et de l'espace. Nous voulons le voir dans nos problèmes. Nous voulons le voir dans nos difficultés. Nous voulons le voir, mes amis, dans notre travail, dans nos affaires, dans nos études, dans notre couple, dans notre famille. Nous voulons voir Jésus nous visiter puissamment. Cependant, cette visitation est bien conditionnée. Et la condition sine qua non pour que nous expérimentions la proximité, l'intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, c'est la sanctification. C'est que Dieu veut, nous dit la parole, en Thessaloniciens 4, verset 3, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que vous vous absteniez de l'impureté. Voyez-vous? C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté, dans la pureté. Car, ajoute l'apôtre Paul écrivant aux Thessaloniciens 1, chapitre 4, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais plutôt à la sainteté. » Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener dans cette intimité avec Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix que d'apprendre à prier par l'Esprit. Nous n'avons pas d'autre choix, mes amis, que de nous tenir devant Dieu pour pouvoir manier sa parole. Car c'est devant lui que sa parole devient un glaive puissant, devient l'épée de l'Esprit. Mais, nous l'avons vu, nous devons apprendre, mes amis, à nous sanctifier. Ça, c'est le message. Les gens courent dans tous les sens. Comme je l'ai dit, hein, je ne sais pas si c'est le dimanche ou l'autre vendredi, pendant que l'Église cherche la puissance, le Seigneur lui demande à son Église la sainteté. Ne courons pas après tout cela, toutes ces choses de bénédiction. Courons plutôt à celui qui donne la bénédiction. Car lorsque nous sommes avec lui, lorsque nous marchons avec un cœur qui reste attaché à lui, lorsque nos yeux sont constamment sur lui, alors nous vivrons des grandes choses. Car avec lui, eh bien, tout est possible. Il y a des mots, comme je l'ai souligné le vendredi dernier, il y a des mots, mes amis, qui font partie de notre langage, qui font partie de la réalité de l'existence humaine, mais qui cependant n'existent pas dans la réalité, dans le royaume de Dieu. C'est des mots comme impossible. Pour Dieu, ça n'existe pas. Tout est possible, alléluia. Comme le mot pénurie, nous avons toujours peur d'en avoir plus assez, voyez, qu'il y ait pénurie de ceci, pénurie de cela. Mais dans le royaume de Dieu, eh bien, ce mot n'existe pas. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Apprenons à nous appuyer sur lui, à compter sur lui, mes amis. Les hommes peuvent aujourd'hui nous acclamer. Les hommes peuvent danser pour nous aujourd'hui. Les hommes peuvent nous encenser. Mais il reste néanmoins des hommes, des humains. Un jour, les mêmes hommes qui vous ont applaudi, qui ont utilisé les mêmes noms, les mêmes mains pour vous acclamer, qui ont utilisé la même bouche pour vous louer, pour vous faire des éloges, seront les mêmes à utiliser la même langue pour vous maudire, la même langue pour vous calomnier, la même langue pour dire de fausseté, pour dire de méchanceté. Ils vont utiliser les mêmes pieds pour aller là, rencontrer d'autres, afin d'organiser une sorte de complot. Il n'y a que Dieu qui ne déçoit jamais. Oh, alléluia. Et gloire au Seigneur. Pour mieux comprendre cela, je voudrais revenir, une fois de plus, à l'expérience du Seigneur. C'est-à-dire pour que chacun de nous comprenne la nécessité d'utiliser la parole comme l'épée de l'Esprit, la nécessité de prier par l'Esprit, c'est-à-dire en étant devant le Seigneur, nous allons nous tourner vers le Seigneur qui reste notre modèle par excellence. Car c'est la prière par l'Esprit qui crée des dégâts dans le camp de nos adversaires. C'est la prière par l'Esprit qui nous conduit à la victoire. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, je le dis le dimanche, mes amis, Dieu connaît notre vie. Il sait ce que nous serons demain. Il sait ce que nous ferons. Le Seigneur n'attend pas que le jour J arrive pour finalement il arrange les événements afin que nous accomplissions ses œuvres. Non! En Jésus, nous sommes l'ouvrage de Dieu. En Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés dans le but d'accomplir des œuvres, écoutez bien, des œuvres glorieuses, des œuvres magnifiques que Dieu a préparées d'avance. Avant même que nous venions sur cette terre, il avait déjà préparé des choses. Et maintenant, notre priorité, c'est quoi? C'est de tout faire pour que nous marchions dans les œuvres que lui a préparées d'avance. C'est-à-dire, pour chaque combat, il a une stratégie. Alléluia! Pour chaque combat, il aimerait nous conduire d'une certaine manière. Mais comment connaître la pensée du Père dans cette situation dans laquelle tu te trouves si tu n'es pas avec le Saint-Esprit? Car personne ne connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est donc le Saint-Esprit qui va nous révéler ce que nous devons faire. Soit nous nous mettons simplement à louer le Seigneur alors que le combat fait rage, comme ce fut le cas avec Josaphat. Dieu ne lui a pas demandé, écoute, vas-y, moi je suis derrière ton armée, par ton armée, je t'accorderai la victoire. Non! Il a demandé à Josaphat de mettre avant, sur le champ de bataille, d'abord et avant tout les chantres, les louangeurs, les adorateurs. Ils étaient vêtus d'ornements sacrés. Et quand ils sont arrivés en face de l'ennemi, ils se sont mis, mes amis, à louer le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils se sont mis à chanter, à le célébrer. Résultat, eh bien, Dieu a créé la confusion dans le camp de leurs adversaires. Cette coalition démoniaque d'Ammonites et de Moabites et de peuples qui habitaient les montagnes de Séir, eh bien, se sont mis à se battre entre eux. Eh oui, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Cherche Dieu, il combattra pour toi. Et dans ce combat, ce qu'il attend, c'est simplement que tu le loues. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. À chaque fois que tu seras confronté à un combat, il arrivera où le Seigneur te dira, maintenant prends autorité, proclame ma parole. Donc il n'y a que l'Esprit qui le sait. Voilà pourquoi la Bible dit, priez par l'Esprit avec toutes sortes de prières. Il arrivera que des moments où le Saint-Esprit nous demandera de faire une prière d'autorité. Parce qu'il y a là une entité démoniaque que nous ne voyons pas, qui est à la base, par exemple, des problèmes dans un couple, des problèmes dans une famille. Et nous sommes là, nous prions Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, mets en nous une parole. Il dit, prends autorité, proclame le nom de Jésus. Nous le faisons et la victoire nous est accordée. Oui, nous ne savons pas toujours quoi demander. Mais le Saint-Esprit nous vient en aide. C'est ça. Et pour cela, mon frère et ma sœur, prends la résolution de travailler ta relation avec le Seigneur. Prends la résolution de travailler ton contact avec Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Alors tu pourras prier par l'Esprit. Alléluia. Excusez-moi, je traîne toujours... Sérum, priez par l'Esprit, il faut être avec le Saint-Esprit, oui ou non? Priez par l'Esprit, eh bien il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc vous voyez in fine, mes amis, notre relation, notre intimité avec le Saint-Esprit reste fondamentale dans ce combat. Voyez-vous, quelquefois, nous prions simplement, les choses se passent, et quelquefois le Seigneur nous révèle, je me souviens... Il y a de nombreuses années d'ici, nous avions organisé, nous sommes en Belgique, avec l'église La Pierre Vivante, que je salue, parce qu'ils sont toujours connectés. Nous avions organisé une évangélisation dans un hôtel. Et qu'est-ce que nous faisions? Eh bien, la journée, on allait faire des porte-à-porte, on essayait de rencontrer les gens, leur parler du Seigneur, et puis ensuite les appeler aux soirées que nous avions organisées. Le premier soir, nous sommes retrouvés seulement entre nous. Quel encouragement. Mais on a loué, j'ai prêché. Je n'ai pas regardé, mais je savais. Mais à moi-même, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. On a distribué autant d'invitations. On a parlé avec autant de personnes. Ces gens, certains nous ont dit, oui, nous serons là ce soir. Premier soir, entre nous. Deuxième soir, entre nous. Aïe, 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 aïe. Et nous avions des moments de prière tous les matins. Et là, ce matin-là, du troisième jour, je crois, de notre évangélisation, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, vous allez... terminer le porte-à-porte plus tôt et aller prier dans la salle. Pourquoi? Ben, Jésus est partout, non? Mais j'ai obéi. J'ai dit, j'ai donné quelques directives aux gens de l'église qui avaient pris part à cet effort d'évangélisation. Et on a fait le porte-à-porte et tout ça, et puis on a vite terminé, et puis une équipe est descendue sur place, a pris autorité. Et le soir, nous sommes partis, commencé à prêcher, Et j'étais devant, en train de parler du Seigneur, de prêcher, quand je vois un homme qui entre, bon, c'était pas une très très grande salle, dans cet hôtel, et qui se met derrière, parce qu'il y avait des gens aussi debout derrière, et je continue à prêcher, et quand j'ai fait l'appel, cet homme s'est approché. Cet homme a reçu le Seigneur. Et j'ai voulu savoir un peu, en échangeant avec lui à la fin, il m'a dit qu'il habitait dans le Luxembourg, qu'il était en mission dans la région. C'était un agent commercial, il travaillait pour une chaîne, d'alimentation, je ne sais pas laquelle, et il logeait là-bas, et cet après-midi-là, dans sa chambre, il entend une voix qui lui dit « Descends ». Eh bien, il prend l'ascenseur, il descend, et quand il passe devant la réception, la salle était juste à côté, il entend des gens en train de chanter. Il demande à la réceptionniste, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors la dame qui nous connaissait, parce que ce n'était pas la première fois qu'on louait cette salle, elle dit, non, c'est une église évangélique. Elle dit, ah bon, est-ce que je peux y aller? Elle dit, oui, hein, c'est gratuit. Il est venu, il était loin de s'imaginer que le Seigneur l'attendait. Alléluia. Finalement, on apprendra quoi? Dans la même salle, avant que nous la prenions en location, eh bien, il y avait, l'avant-midi, des séances d'occultisme. Vous voyez? Donc, nous sommes arrivés sur un terrain miné. Nous avons prêché le premier soir, rien. Deuxième soir, Seigneur, c'est pas possible. On a jeûné, on a prié. Et quand le Saint-Esprit intervient, il donne sa parole, eh bien, le résultat était plus que glorieux. Oh, alléluia. Jésus. Il a vaincu le diable. Vous connaissez tous cette histoire du Seigneur qui va affronter Satan. Nous sommes au désert. Luc chapitre 4. Le premier verset nous dit que Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voyez-vous? Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Cette histoire, mes amis, nous montre l'importance d'avoir une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Le Seigneur est conduit par le Saint-Esprit. Le Seigneur est rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur est en prière là au désert, n'est-ce pas? Et le Seigneur est en jeûne. C'est à ce moment-là que le diable pointe son nez. C'est là qu'il vient pour le tenter. Et quand il arrive, il dit au Seigneur, première tentation, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres pour qu'elles deviennent de pain. Après tout, n'es-tu pas fatigué, n'as-tu pas faim ?» Et le Seigneur lui dira, et j'aime la citation de Matthieu, « L'homme, il est écrit, il se réfère à la parole, n'est-ce pas ? Écoutez-moi bien, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, Matthieu, chapitre 4, ajoute, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Ah, cette parole était écrite, n'est-ce pas? Mais là, à un moment bien précis, cette parole devient l'épée. Tous les Juifs ont eu à lire cette parole-là. Voyez-vous? Mais là, cette parole revêt un sens tout particulier. Et cela, c'est parce que nous n'avons pas le temps, je reviendrai avec plus de détails pour parler de deux termes que le grec, comme vous le savez tous, le grec est la langue par laquelle la révélation du Nouveau Testament nous est parvenue. Le grec a deux termes principaux pour exprimer la notion de la parole de Dieu. Vous avez le terme logos, je reviendrai là-dessus, et le terme rhéma. Logos, c'est la parole de Dieu de manière générale. Et le Réma, c'est la parole de Dieu qui nous est révélée par le Saint-Esprit, la même parole, Logos, à un moment, dans une situation bien particulière. Voyez-vous, dans un contexte bien particulier, le même verset que nous avons toujours lu, à un moment, ce verset revêt un nouveau sens. Oh, alléluia. Eh bien, c'est ce que le Seigneur dit au diable. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout réma. Ah, de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, cette parole avait été écrite. Nous la trouvons dans l'Ancien Testament. N'importe qui peut le lire ce verset. Mais là, ce verset, mes amis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, cette parole devient une paix qui fait reculer le diable. À trois reprises, le diable vient. À trois reprises, le Seigneur nous balance la parole. Mes amis, il ne s'agit pas simplement de réciter les versets. Aujourd'hui, on met beaucoup d'accent sur l'enseignement biblique ou théologique. C'est bien, mais j'aimerais vous dire une chose, qu'il y a des gens, n'importe qui peut faire la théologie. N'importe qui peut faire l'école biblique. J'ai connu des grands théologiens, mais qui n'étaient nulle part dans leur relation avec le Seigneur. On peut connaître tous les versets de la parole. Il est donc important d'avoir une relation vivante avec Dieu. À un moment, cette même parole, le Logos, cette parole générale, à un moment, eh bien, le Seigneur nous donne une pensée particulière dans une situation particulière. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Dieu t'a conduit d'une certaine manière. Face à une situation, tu as eu à cœur de jeûner. Tu as eu à cœur de faire la proclamation. C'est une très bonne chose. Et puis tu en fais une doctrine. Désormais, eh bien, ça sera comme ça. Faux. Il faut laisser le Saint-Esprit te conduire. Il faut laisser le Saint-Esprit, eh bien, inspirer ton cœur. Le Seigneur a utilisé la parole, il a fait reculer le diable. Il a manié avec dextérité, avec puissance, avec efficacité, le réma de l'Esprit, la parole dite à propos. Voilà. La parole dite à propos. On proclame une parole. Voyez-vous, il n'est pas dit que dans toute situation, vous aurez à faire la même proclamation. Ce n'est ni par la puissance du jeûne. Ce n'est ni par la force de l'intelligence théologique, mais bien par l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Mais pour que cette parole devienne un réma pour toi, ben, tu dois la connaître. Tu dois passer du temps avec Dieu. Et je reviendrai là-dessus. Quant à la notion de logos et du réma. Mais sachez que c'est ce qui est utilisé. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout réma qui sort de la bouche, de la parole dite de manière personnelle, dans un contexte bien particulier. Eh bien, c'est la même chose que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, ce que nous avons lu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est donc la parole, eh bien, littéralement, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est le réma de Dieu. Donc, ce n'est pas le logos comme ça. Donc, vous venez, le diable est là, vous commencez à lui réciter, il est écrit, Moïse a dit et tout ça, le diable est là, hein. Ça ne va pas lui faire peur. C'est ce qui fait que quelquefois vous avez les gens qui ont des versets bibliques dans leur tête, mais sans puissance dans leur vie. Voyez-vous. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par le Saint-Esprit et utilise l'épée de l'Esprit, le réma de Dieu. Voyez-vous. Puisqu'il est question du Saint-Esprit, faisons alors tout, mes amis, pour ne pas l'attrister. Le Saint-Esprit est une personne. C'est comme dans le mariage. Vous avez deux personnes au caractère différent, à la personnalité différente, mais qui sont appelées à vivre ensemble. Vous voyez? Et pour que ces deux personnes, l'homme et la femme, au sein du mariage, puissent aller de l'avant, ben, il faudra que l'un comme l'autre fasse tout pour ne pas mener une vie qui attriste constamment l'autre. Vous faites toujours des choses qui énervent l'autre. Vous l'attristez tout le temps. Vous ne serez pas heureux. Elle aussi ne sera pas heureuse. Donc, vous allez tout faire. Vous allez faire preuve de prévenance. Vous allez tout faire, chercher à faire des choses qui plaisent à l'autre. Et elle aussi ou lui aussi va faire des choses qui vous plaisent. Alors, vous connaîtrez véritablement le bonheur conjugal. Vous serez heureux dans votre mariage. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Nous ne devons pas l'attrister par l'état de notre cœur, par le péché, par la jalousie, par la calomnie. Faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche, par l'hypocrisie. Voyez-vous, vous êtes là, vous souriez aux gens, « Oh, alléluia, ça va, frère ? Ah, ça va, pasteur ?» Mais dans le cœur, c'est la haine. Lui aussi, il se croit pour qui ? Cette sœur, il n'y a pas longtemps qu'elle est arrivée à la borne, on l'envoie maintenant partout, elle prie et tout ça. Oui, mais ce n'est pas parce que tu as atterri à la borne il y a 40 ans que tu aurais tout le droit sur ceux qui sont arrivés il y a 10 ans, sur ceux qui sont arrivés il y a 15 ans. Si toi, tu ne fous rien, hein, tu es toujours là. À l'échelle humaine, tu es déjà à la retraite. Tu viens marquer seulement de ta présence. Voyez-vous, l'autre vient, il travaille et tout ça, ben, Dieu le bénit. Dieu n'a pas besoin de regarder au nombre d'années. Il regarde à ce que nous sommes pour lui. Une vie de cupidité, de convoitise, une vie d'orgueil est une vie qui attriste le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à nous revêtir de l'humilité, à être sobre dans notre vie, mes amis. Alors, nous développerons notre intimité avec le Seigneur. Donc nous voyons le Saint-Esprit, le moment de prière, et puis l'épée de l'Esprit. La prière par l'Esprit, et puis l'épée de l'Esprit. Lorsque nous arrivons, mes amis, à nous servir de ces deux armes, laissez-moi vous dire une chose, il n'y a aucun ennemi qui pourra nous résister. Il n'y a aucun ennemi qui pourra nous menacer. Et je voudrais que chacun de nous, mes amis, puisse apprendre à se sanctifier, à se débarrasser de toute souillure de la chair et de l'esprit, à poursuivre la sainteté en la développant jusqu'à son terme, et le tout dans la crainte de Dieu. Souvent, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. On ment. Il y en a qui parlent même des petits mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges, hein. Je sais qu'il y a des religions qui ont catégorisé le péché. Il y a des péchés, je ne sais pas, originels, véniels, ou je ne sais pas quoi. Mais le péché reste péché. Hein. Si tu voles, eh bien, la parole de Dieu n'attendra pas que tu enfreignes le 9 autres commandements pour qu'enfin tu sois condamné. Le fait d'enfreindre, de désobéir à un commandement, fait de vous coupable du reste de tous les commandements. Parce que la parole est une. Gloire à Dieu. Après le Seigneur, et nous terminerons par là, nous allons retrouver le même schéma avec mes amis, nos bien-aimés de la première église. C'est-à-dire comment eux, ils ont compris cela. Et comment, mes amis, ils vont être de véritables menaces pour le monde des ténèbres. Nous allons retrouver le même schéma, le Saint-Esprit, la plénitude, la direction du Saint-Esprit et le résultat plus que glorieux. Dans Actes chapitre 1er, très rapidement, du verset 4 à 5, la Bible nous dit, que le Seigneur, avant, évidemment, il s'apprête à retourner auprès du Père, il recommande à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre à Jérusalem l'accomplissement de la promesse de Dieu, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui parle, hein? Et puis il continue, et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, le verset 8, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ça, ils se retirent. Ils vont dans la chambre haute. Et là, ils se mettent à prier. Tous d'un commun accord, persévérez dans la prière et dans la supplication. Et au chapitre 2, 10 jours après, du jour de prière, du jour de combat, mes amis, dans cette chambre haute, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit descend. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sont plongés dans le feu de l'Esprit. Alléluia. N'est-ce pas? Eh bien, la descente du Saint-Esprit est précédée par un bruit. Il y a eu un bruit qui est venu d'en haut. C'est ce bruit-là qui a attiré la foule qui est à Jérusalem. Ils n'ont pas fait de publicité. Ils n'ont pas mis des calicots, apôtre Paul ou chez Pierre. Non. Qui a attiré les gens? C'est le Seigneur. Créons les conditions afin que le ciel fasse le bruit. Et c'est ce bruit-là qui amènera les gens. Les gens viendront en disant, nous avons entendu qu'il y a du pain à la borne et nous venons manger. Nous avons entendu que Dieu est à l'œuvre dans son Église et nous sommes venus. Mais aujourd'hui, nous essayons de provoquer le bruit nous-mêmes. Et les gens viennent juste pour danser. Les gens viennent simplement pour se faire plaisir, pour se frotter à l'atmosphère qui règne. Attention. Et résultat, quand ces gens viennent, ils entendent les disciples parler dans leur langue. Ils se disent, mais c'est pas possible. Ces gens sont-ils ivres? Sont-ils bourrés? Comment expliquer que nous les entendons chacun dans sa langue ou dans son dialecte? Pierre vient avec les 11. Pierre prend la parole face à tout ce gens perplexes hors d'eux-mêmes. Tout le monde attend. Qu'est-ce qu'il va dire? Pierre commence par les rassurer. Il dit, ces gens que vous voyez n'ont pas passé toute leur nuit à boire, à consommer de l'alcool, pas du tout. Car nous ne sommes que 9 heures du matin. Mais ce à quoi vous assistez, et donnez-moi maintenant votre attention, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait déclaré par le prophète Joël, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette parole, écoutez-moi bien, cette parole, les juifs et les prosélytes, c'est-à-dire les non-juifs qui avaient adhéré au judaïsme, la connaissaient. Parce que dans la pratique du culte, que ce soit au temple de Jérusalem ou dans les synagogues, la lecture du Tanakh, comme on l'appelle, c'est-à-dire Torah, Nevim, Ketuvim, la Torah, les 5 livres de Moïse, plus les autres écrits et les livres des prophètes, donc au fait notre Ancien Testament, ils ont toujours lu ça. Donc pendant des siècles, ce passage a été lu. Tout le monde savait qu'un temps viendrait où Dieu enverrait son Saint-Esprit. Et là, Pierre, devant Dieu, oh alléluia, Pierre, rempli du Saint-Esprit comme son maître au désert, Pierre prend la même parole que les Juifs connaissaient, mais cette parole acquiert un nouveau sens, et il leur dit, c'est l'accomplissement de cette parole. Alors ils sont touchés. Et puis après, il cite David, des paroles de David que nous trouvons dans les psaumes. Paroles que tous les juifs connaissaient. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est que Pierre les cite de mémoire. Il n'a pas le rouleau de la Torah ou de prophète pour commencer à tourner. Non. C'est-à-dire, il connaissait tout cela, évidemment, avec l'aide du Saint-Esprit. Quand il termine le verset 37, et je veux m'arrêter là, le verset 37 nous dit ceci, du chapitre 2. Est-ce qu'on peut me mettre ça? Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Arrêtons-nous là. Ils viennent de recevoir la parole, cette parole qui est l'épée de l'Esprit. Pour mieux comprendre la réaction de ces gens, je veux de nouveau recourir au grec, c'est-à-dire à la traduction littérale. Écoutez ce que la Bible dit littéralement, le Nouveau Testament. Après avoir entendu cela, ils furent transpercés au cœur. Ils furent piqués. Oh, alléluia. Ils furent piqués au cœur. Et ils se dirent, frères, que ferons-nous maintenant? Et c'est là que Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés afin que vos péchés vous soient pardonnés. Oh, alléluia. Leur cœur a été transpercé. À ce moment, la même parole, en ce moment, ce que Pierre est en train de proclamer est vraiment l'épée de l'Esprit. Et on ne peut pas s'exposer à l'épée de l'Esprit et rester comme ça. L'épée les a transpercés. Et là, ils réagissent. Résultat, 3000 âmes sont sauvées pour une prédication. Pour une prédication qui n'a pas duré une heure. Voyez-vous, mes amis, il n'y a pas eu de tralala. Il n'y a pas eu un groupe de louanges. Gloire à Dieu, nous avons un groupe de louanges merveilleux. Mais ce n'est pas ça ce que je veux dire. Il n'y a pas eu de moment, un programme liturgique bien établi. À telle heure nous faisons ceci, à telle heure nous faisons cela. Il n'y a pas eu une préparation à proprement parler, comme c'est le cas avec nous. Il n'est pas dit que nous ne pouvons pas nous préparer, mais il y a une préparation spirituelle. Il proclame le rhéma de Dieu. La parole devient l'esprit. Et quand quelqu'un tient l'épée et que vous vous approchez, vous allez vous faire du mal. Alors mes frères, mes sœurs, sachons utiliser l'épée de l'esprit, qui est donc le rhéma de Dieu. Soyons priés par l'esprit. Et dans l'esprit, car il n'y a que l'esprit qui connaît la pensée du Père pour notre situation, pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et si nous apprenons à prier par l'esprit, si nous apprenons à manier l'épée de l'esprit, le rhéma de Dieu, croyez-moi, nous irons de victoire en victoire. Nous irons de gloire en gloire. Nous ferons reculer les ténèbres. Des âmes viendront et trouveront le Seigneur. Travaillons notre intimité avec l'esprit de Dieu. Abandonnons le péché, tournons le dos à l'orgueil, à la suffisance, mes amis, et jetons-nous dans le bras de l'humilité, de la sobriété, et laissons le Saint-Esprit agir, et notre vie, mes amis, sera une vie de bénédiction pour nous et pour les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Inclinons nos têtes. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, pour ta parole. Nous voulons être des hommes et des femmes, Seigneur, rodés au maniement, ô Dieu, de ces deux armes principales, à savoir le rhéma, ton rhéma, qui est l'épée de l'esprit, à savoir la prière par l'esprit et avec toutes sortes de prières. Aide-nous. Nous voulons gagner des combats. Nous voulons gagner des batailles. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci.